Mais à un certain point, et précisément tandis que nous parcourions les salles de la tour méridionale, dite Léonesse, il advint que mon maître stationna dans une pièce riche d'ouvrages arabes et de curieux dessins d'optique. Et comme ce soir-là nous disposions non seulement d'une, mais de deux lampes, je me dirigeai par curiosité vers la pièce attenante pour me rendre compte que la sagacité et la prudence des législateurs de la bibliothèque avaient rassemblé, le long d'un de ces murs, des livres qui ne pouvaient certes être mis entre les mains de n'importe qui, car chacun à sa façon, il traitait de différentes maladies du corps et de l'esprit, ouvrages presque tous de savants infidèles. Et mon œil tomba sur un livre pas très grand, orné d'enluminures fort différentes, heureusement, du thème des fleurs, des vrilles, des animaux par couple, quelques herbes médicinales. Son titre était « Speculum Amoris » de Fra Maxime de Bologne. Et il rapportait des citations de maints autres ouvrages, tous sur la maladie d'amour. Comme le lecteur comprendra, il n'en fallait pas davantage pour réveiller ma curiosité malade. Mieux, le titre suffit à enflammer de rechef mon esprit, qui depuis le matin s'était apaisé en l'excitant de nouveau avec l'image de la jeune fille. Comme la journée durant, j'avais ravalé mes pensées matinales, en me disant qu'elles n'étaient pas dignes d'un novice sain et équilibré, et comme, d'autre part, les événements de ce jour avaient été suffisamment riches et intenses pour me distraire, mes appétits s'étaient calmés, si bien que je croyais m'être désormais libéré de ce qui n'avait été rien d'autre qu'une inquiétude passagère. Il suffit en revanche de la vue de ce livre pour me faire dire « Dete fabula narratur » et pour me découvrir plus malade d'amour que je ne croyais. J'appris par la suite que, à lire des livres de médecine, on se persuade toujours d'éprouver les douleurs dont ils parlent. Ce fut ainsi que, justement, la lecture de ces pages, lorgnée en toute hâte par peur que Guillaume n'entrât dans la pièce et ne me demandât sur quoi je me penchais si doctement, me persuada que je souffrais bien de cette maladie dont les symptômes étaient décrits avec tant de splendeur que, si d'un côté je m'inquiétais de me trouver malade, et dans la compagnie infaillible de maintes auctoritates, de l'autre, je me réjouissais à voir dépeinte avec une telle vivacité ma situation. Convaincu peu à peu que, si donc j'étais malade, ma maladie était pour ainsi dire normale, étant donné que tant d'autres en avaient souffert mêmement, et les auteurs cités semblaient m'avoir pris moi précisément comme modèle de leur description. Ainsi mon émotion s'épandit sur les pages de Ibn Hazm, qui définit l'amour comme une maladie rebelle, ayant son antidote en soi-même, tel que celui qui en est malade ne veut pas en guérir et qui en est atteint ne désire pas en réchapper. Et Dieu sait comme ce n'était pas vrai. Je me rendis compte pourquoi le matin j'étais si excité par tout ce que je voyais. Parce qu'il paraît que l'amour entre à travers les yeux, comme dit aussi Basile d'Ancyre. Et, symptôme impossible à confondre, qui est pris d'un tel mal, manifeste une excessive gaieté, tandis qu'il désire dans le même temps rester à l'écart et chérit la solitude, comme je l'avais fait ce matin-là. Cependant que d'autres phénomènes l'accompagnent, tels l'inquiétude violente et la stupeur qui ôte la parole. J'eus peur en lisant que chez l'amant sincère, auquel se dérobe la vue de l'objet aimé, ne peut que survivre un état de consomption allant souvent jusqu'à lui faire prendre le lit. Et parfois, le mal accable le cerveau. On perd l'esprit et on délire. D'évidence, je n'étais pas encore parvenu à cet état puisque j'avais parfaitement travaillé à l'exploration de la bibliothèque. Mais je lus avec appréhension que si le mal empire, la mort peut en être l'issue. Et je me demandais si la joie que la jeune fille me donnait à penser à elle valait ce sacrifice suprême du corps, mis à part toute stricte considération sur la santé de l'âme. C'est qu'aussi, je trouvais une autre citation de Basile, selon lequel « Qui animam corpori pervicia, conturbationesque commissent, utrinque quod habet utile, ad vitam necessarium demoliuntur, animam quae lucidam, ac nitidam carnalium, voluptatum limo perturbant, et corporis mundiciam, atque nitorem ac ratione, missentes, inutile hoc ad vitae officia ostendunt. Situation extrême où vraiment je ne voulais pas me trouver. » J'appris encore par une phrase de saint Hildegarde que cette humeur mélancolique ressentie au cours de la journée et que j'attribuais à un doux sentiment de peine causé par l'absence de la jeune fille ressemble dangereusement au sentiment qu'éprouve celui qui se détourne de l'état harmonieux et parfait que l'homme ressent au paradis. Et que cette mélancolie, nigra et amara, est produite par le souffle du serpent, et par la suggestion du diable. Idée partagée aussi par des infidèles d'égale sagesse, car me tombèrent sous les yeux les lignes attribuées à Abou Bark Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi, qui, dans un Liber Continence, identifie la mélancolie amoureuse à la lycanthropie, maladie poussant celui qui en est frappé à se comporter comme un loup. Sa description me serra la gorge. D'abord, les amants apparaissent changés dans leur aspect extérieur, leur vue s'affaiblit, leurs yeux deviennent caves et perdent leurs larmes. Leur langue lentement se dessèche et se couvre de pustules, leur corps entier brûle et ils souffrent sans arrêt de la soif. C'est alors qu'ils passent leur journée allongée, la face contre le sol. Sur leur visage et sur leur tibia apparaissent des signes semblables à des morsures de chiens et enfin, ils errent de nuit dans les cimetières comme des loups. Je n'eus pour finir plus aucun doute sur la gravité de mon état quand je lus des citations du très grand Avicenne où l'amour se voit défini comme une songerie lancinante de nature mélancolique, qui naît à force de penser et de repenser aux traits, aux gestes ou aux habitudes d'une personne du sexe opposé, comme Avicenne avait représenté en touche vive et fidèle mon propre cas. Il ne naît pas comme maladie, mais devient maladie, quand, n'étant pas satisfait, il devient pensée obsessionnelle. Et comment se faisait-il que j'éprouvais cette obsession, moi qui, pourtant, Dieu me pardonne, m'étais bel et bien satisfait? Ou peut-être, ce qui avait eu lieu la nuit précédente n'était point satisfaction d'amour. Mais alors, comment satisfait-on ce mal, dont la conséquence est un mouvement continu des paupières, une respiration irrégulière, tantôt on rit, tantôt on pleure, et le pouls bat la chamade. Et en vérité, le mien battait fort, et ma respiration se brisait tandis que je lisais ces lignes. Avicenne conseillait une méthode infaillible déjà proposée par Galien pour découvrir de qui on est amoureux. Tenir le poignet du souffrant et prononcer moult noms de personnes de l'autre sexe jusqu'à ce qu'on perçoive à quel nom le rythme du pouls s'accélère. Et moi, je craignais que soudain mon maître n'entrât et ne me saisît le poignet pour épier dans la pulsation de mes veines mon secret, ce dont j'aurais eu grande honte. Hélas! Avicenne suggérait comme remède d'unir les deux amants en mariage, et le mal guérirait. C'était bien vraiment un infidèle, encore que sagace, parce qu'il ne prenait pas en compte la condition d'un novice bénédictin, condamné donc à ne jamais guérir. Ou mieux, s'étant voué par choix personnel ou par choix avisé de ses parents à ne jamais tomber malade. Heureusement, Avicenne, même si l'idée de l'ordre clunisien lui était étrangère, considérait le cas d'amants à jamais désunis et conseillait comme cure radicale les bains chauds. Béranger voulait-il par hasard guérir de son mal d'amour pour le défunt Adelme? Mais pouvait-on souffrir du mal d'amour pour un être de son propre sexe? Ou n'était-ce point là que bestiale luxure? N'était-elle pas également bestiale la luxure de ma nuit passée? Non, certes, me disais-je aussitôt, elle était très douce. Et sitôt après, tu te trompes, Atso, ce fut pure illusion du diable, elle était d'une grande bestialité, et si tu as péché en étant une bête, tu pèches encore plus maintenant à ne pas vouloir t'en rendre compte. Mais ensuite, je lus aussi que, toujours selon Avicenne, il y avait d'autres moyens. Par exemple, recourir à l'assistance de femmes vieilles et expertes qui passeraient leur temps à dénigrer l'aimé, et il paraît que les vieilles femmes sont plus expertes que les hommes à ce genre de besogne. C'était peut-être la bonne solution, mais des vieilles à l'abbaye. Je ne pouvais pas en trouver, ni des jeunes en vérité. Et j'aurais dû donc demander à quelques moines de me dire du mal de la fille. Mais à qui? Et puis un moine pouvait-il connaître aussi bien les femmes que les connaissait une femme vieille et potinière? La dernière solution suggérée par le sarrasin était franchement effrontée, car elle prétendait qu'on fit unir l'amant malheureux avec un grand nombre de belles esclaves, chose fort inconvenante pour un moine. Enfin, me disais-je, comment peut guérir du mal d'amour un jeune moine? N'y a-t-il vraiment point de salut pour lui? Peut-être me fallait-il recourir à Séverin et à ses herbes. De fait, je tombais sur un passage d'Arnaud de Villeneuve, auteur que j'avais déjà entendu citer par Guillaume, avec grande considération, qui faisait naître le mal d'amour d'une abondance d'humeur et de pneuma, c'est-à-dire quand l'organisme se trouve en excès d'humidité et de chaleur, étant donné que le sang producteur de la semence générative, augmentant à l'excès, provoque un excès de semence, une complexio venerea et un désir intense d'union entre hommes et femmes. Il est une vertu estimative située dans la partie dorsale du ventricule moyen de l'encéphale. De quoi s'agit-il, me demandai-je. dont le but est de percevoir les intentions non sensibles qui sont dans les objets sensibles captés par les sens et, quand le désir pour l'objet perçu par les sens se fait trop fort, voilà que la faculté estimative s'en trouve bouleversée et ne se nourrit que du fantôme de la personne aimée. Alors se vérifie une inflammation de l'âme tout entière et du corps, dans un va-et-vient de tristesse et de joie, car la chaleur, qui dans les moments de désespoir descend dans les parties les plus profondes du corps et glace l'épiderme, dans les moments de joie monte à la surface en enflammant le visage. La cure, suggérée par Arnaud, consistait à perdre toute confiance et l'espoir de rejoindre l'objet aimé, de façon que la pensée s'en détournât. « Mais alors, je suis guéri ? Ou en voie de guérison, me disais-je, car j'ai peu d'espoir, sinon aucun, de revoir l'objet de mes pensées. Et si je le voyais, de le rejoindre. Et si je le rejoignais, de le posséder de nouveau. Et si je le repossédais, de le retenir près de moi, aussi bien en raison de mon état monacal que des devoirs qui me sont imposés par le rang de ma famille. Je suis sauvé, me dis-je. » Je fermai le fascicule et repris contenance, juste au moment où Guillaume entrait dans la pièce. Je me remis en chemin avec lui à travers le labyrinthe au parcours dès lors dévoilé, comme je l'ai déjà raconté, et pour l'heure oublié mon obsession. Comme on le verra, il me serait donné de la retrouver peu de temps après, mais en des circonstances, hélas, bien différentes.